Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé, Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Saviez-vous que l'hospitalisation privée, cliniques et hôpitaux privés, représentait plus du tiers de l'activité hospitalière en France, avec 190 000 professionnels de santé? La crise Covid a montré au grand jour combien elle était indispensable à la santé des Français et complémentaire de l'hospitalisation publique. Mais malgré son dynamisme et sa capacité d'innover, elle vit une grave crise qui pourrait menacer à court terme la santé des patients. Vivalto Santé, troisième groupe de cliniques privées en France, est l'invité de Check-up Santé cette semaine. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel De Geuzer, son directeur général, qui va nous présenter son groupe. Emmanuel De Geuzer, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous dirigez donc le groupe Vivalto Santé. Vivalto Santé, c'est une aventure assez jeune.
C'est très récent. C'est un groupe qui a été créé par Daniel Caille en 2009. À l'origine, appelé par un petit groupe de médecins qui étaient à Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Malo et Brest. Donc, vous voyez, un ancrage territorial puissant en Bretagne pour finalement créer ce qui va devenir aujourd'hui un groupe européen.
Alors, c'est un véritable groupe européen, c'est
oui,
bien ça?
Exactement. Aujourd'hui, on est dans 6 pays.
Oui.
La nickel. France, oui. Voilà, France, Espagne, Portugal, Suisse, Slovaquie et Tchéquie. Mmh. On est à peu près 21 000 personnes, 6 000 praticiens et on traite à peu près 4,5 millions de patients en Europe.
Par an.
Oui. Et tant en France, en Espagne qu'au Portugal, on occupe à chaque fois une place de troisième. On n'est ni premier ni second.
Vous êtes sur le podium, absolument.
Oui.
Et votre siège est hybride.
Paris, oui, il est hybride. On a un pied à Rennes et un pied à Paris.
Oui. Et sinon, vos établissements, donc une centaine d'établissements.
Une centaine en Europe.
Ils sont répartis en Europe, évidemment, oui, mais en France, ils sont répartis plutôt sur la partie ouest de la France ou...
Exactement. Oui. On part de Calais. Et on longe, vous longez la côte, donc les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine, les Yvelines. Mm-hmm. Et puis on a quelques établissements, Bourgogne-Rhône-Alpes, Savoie, territoire de Belfort, Nice, voilà. Mais on est quand même très à l'ouest.
Très bien, alors vous avez un modèle unique de gouvernance, oui, partagée, que vous appelez la troisième voie. Et pour nous en parler, on va accueillir le docteur Philippe Souchois, directeur médical de Vivalto Santé, et le docteur Pierre-Henri Flurin, directeur médical de Vivalto Partners.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Philippe Souchois, bonjour.
Bonjour Fabien.
Pierre-Henri Flurin, bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre-Henri Flurin, donc... Il y a deux entités, on a l'impression, Vivalto Santé, Vivalto Partners. Quelle est la différence entre ces deux entités?
Alors, Vivalto Santé est l'entité qui gère les cliniques, les établissements de soins. Et Vivalto Partners, c'est la structure qui gère l'ensemble, à la fois les établissements de soins et un certain nombre de projets de santé, en particulier de projets innovants, qui élargissent le spectre d'intérêt de Vivalto dans son ensemble. Vivalto Partners est aussi présidé par Daniel Caille, notre fondateur.
Alors Philippe Souchois, donc on a évoqué juste avant cette fameuse troisième voie. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette troisième voie.
Et bien, la troisième voie, c'est un peu le marqueur de Vivalto Santé. C'est le seul groupe qui a mis en œuvre cette troisième voie à l'initiative de notre fondateur. Ça s'exprime dans deux directions. D'abord l'actionnariat médical, un praticien sur trois actionnaires du groupe aujourd'hui. Et le deuxième aspect, c'est effectivement la gouvernance partagée. Et c'est le sujet, en fait, de la capacité pour les médecins à intégrer tous les enjeux de gouvernance du groupe, quel que soit le niveau, au niveau local dans les cliniques, au niveau territorial et au niveau national.
Donc cette collaboration, elle est aussi bien au niveau national que régional et local?
Absolument.
Oui.
Dans toutes les instances, en fait, les médecins ont la capacité, avec les équipes de direction, d'échanger sur toutes les problématiques ou tous les projets qui sont proposés dans le groupe.
Alors pour ça, donc, il y a deux comités médicaux. Il y a le comité médical stratégique et le comité médical des opérations. Qu'en est-il du comité médical stratégique, Pierre-Henri Furin?
Le comité médical stratégique, c'est l'incarnation de cette troisième voie. C'est un comité dans lequel les médecins vont apporter matière à une réflexion médicale sur tous les sujets qui peuvent concerner Vivalto Santé, les établissements. Ça va concerner à la fois la qualité des soins, ça va concerner la pertinence des soins, ça va concerner les innovations et leur accompagnement, ça va concerner tout ce qui peut apporter un plus et un mieux pour le patient et pour les soignants.
Donc Philippe Souchois, c'était en fait une réflexion sur ce qui peut améliorer la pratique médicale?
Oui, entre autres, réflexion sur les pratiques médicales, mais pas uniquement. On déborde largement sur d'autres thématiques, comme Pierre-Henri vient de le dire. Et c'est aussi la capacité, j'allais dire, à envisager leur déclinaison opérationnelle. On est dans un comité qui véritablement est ancré aussi avec les équipes de terrain.
D'accord. Vous avez des exemples? Non, c'est quoi? C'est sur la e-santé, sur le...
Alors, il y a un enjeu, effectivement, oui, autour de la transformation numérique, bien évidemment. Mm-hmm. Mais pas uniquement. On travaille aussi sur d'autres thématiques. Typiquement, dans l'actualité du moment, il y a la robotique en orthopédie, il y a la labellisation de nos équipes médicales et chirurgicales, et des sujets comme ça, j'allais dire, qui sont susceptibles, effectivement, de continuer à nous différencier des autres acteurs.
Emmanuel De Geuzard, donc c'est une vraie particularité donc chez Vivalto, ce comité médical stratégique?
Ah oui, et puis pour l'équipe exécutive, c'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des praticiens. C'est un module qui est extrêmement agile, puisque bon, vous avez le président, donc Pierre-Henri Fleurin, et bien évidemment le docteur Philippe Souchois, qui anime
Pierre-Henri
cette
Fleurin,
structure.
C'est Vivalto Partners et voilà, Philippe Souchois, Vivalto.
Voilà, c'est les deux têtes finalement de cette structure stratégique. C'est une espèce de think tank interne, mais ça guide les travaux du comité exécutif, notamment parce que c'est pas une structure qui est figée, elle est ouverte sur le groupe, et on va aller chercher dans le groupe des praticiens qui ont aussi des expériences à partager ou qui ont véritablement une vision sur l'évolution de leur métier. Et nous, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les gens de métier pour pouvoir guider la direction et guider les décisions du groupe.
Pierre-Henri Fleurin, vous êtes aussi médecin. Donc, dans votre spécialité, là aussi, vous réfléchissez sur les avancées,
oui,
les progrès.
Je crois qu'il est important.
Rappelez-nous votre spécialité.
Chirurgie orthopédique, ouais, mais plus particulièrement chirurgie de l'épaule. Pour le droit et de l'épaule gauche, hein, ouais. Je fais les deux quand même.
Ah donc vous n'êtes pas si spécialisé que ça finalement.
Ouais. Mais je pense que c'est aussi l'évolution naturelle de la médecine actuelle. La médecine est de plus en plus spécialisée. Chacun est de plus en plus centré dans son couloir, ce qui peut être un avantage sur le plan de la qualité technologique des soins, mais ce qui peut aussi empêcher de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on fait. Et je crois que l'un des rôles du comité médical stratégique, c'est aussi de regarder l'ensemble des soins, l'ensemble des pratiques médicales, et d'essayer d'aider à l'amélioration de tout ça.
Philippe Souchois, donc les médecins et chirurgiens, hein, sont très motivés, très impliqués avec cette gouvernance,
oui,
particulière.
Ce système de gouvernance partagée à trois niveaux permet d'aller jusqu'au niveau du terrain. Et c'est ça qui est intéressant. Dans les comités de direction médicaux, dans chaque établissement de Vivalto Santé, on a forcément une implication de nos confrères au plus près des réalités du terrain.
Très bien, ben merci beaucoup Philippe Souchois, merci beaucoup Pierre-Henri Fleurin. On va justement parler de l'autre comité, le fameux CMO, avec Nicolas Biulou, directeur des opérations France, et François Bruno Le Botte, médecin administrateur de Vivalto Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Nicolas Biulou, bonjour. François Bruno Le Botte, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Biulou, donc on va parler maintenant du comité médical des opérations. Juste une petite définition de ce comité.
Alors, le comité médical des opérations, c'est le garant en fait de la troisième voie et de la co-gouvernance entre les managers et les médecins à tous les niveaux en fait du groupe, au niveau établissement, et ce CMO est là justement au niveau de la direction générale du groupe, justement pour accompagner les grandes orientations du groupe.
Oui, mais est-ce que c'est un peu la concrétisation en fait opérationnelle de ce qui a été pensé par le comité médical stratégique ?
Alors c'est surtout l'évolution.
Bruno, vous êtes ophtalmo aussi.
Je suis médecin ophtalmologiste à Saint-Malo, installé en libéral. Et j'étais au départ de l'aventure du groupe, puisque l'aventure du groupe a commencé il y a 15 ans, 2009, avec la rencontre de Daniel Caille et des médecins actionnaires bretons des cliniques de Saint-Grégoire, de Saint-Malo et de Brest, qui est arrivé à la fin, enfin à la fin d'un tour. Et donc l'idée, c'était de trouver une voie médiane de fonctionnement entre une clinique gérée par les médecins, propriétaires des médecins, et l'organisation des groupes financiers plus gestionnaires. Et donc a été créée la troisième voie, qui pour nous était un élément de fonctionnement et de mise en œuvre du bon sens, tout simplement. Et d'ailleurs, ce bon sens a été mis en exergue l'année dernière par le président Macron à ses vœux au mois de janvier 2023 sur la gouvernance des hôpitaux publics, puisque c'est l'élément qu'il a mis en évidence en marchant ensemble, la main dans la main. C'est l'élément de fonctionnement qui semble le plus intéressant. La troisième voie, c'est deux choses. C'est effectivement l'actionnariat médical. L'idée au départ, c'était d'avoir un actionnariat médical fort.
Et là, actuellement. Donc, Emmanuel de Geuser disait qu'un médecin sur trois était actionnaire.
Oui.
Et condition sine qua non ?
Alors, absolument pas. Il y a la liberté totale pour les médecins de devenir actionnaires ou pas. Par contre, il faut être médecin en exercice.
Voilà. C'est la condition sine qua non. Il faut être médecin
en exercice. Tout médecin qui part en retraite doit vendre ses actions. L'autre élément fondateur par rapport à l'actionnariat, c'est l'absence de dividendes. Tous les bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail. Et autre élément extrêmement important, au sein du conseil de surveillance dont je fais partie depuis le départ, les médecins ont un droit de veto sur les évolutions stratégiques et l'avenir du groupe. Donc rien ne se fera sans les médecins. Et l'autre élément, c'est effectivement la gouvernance partagée, dont le CMO est une évolution au fil des années, parce que ça s'est fait dans la durée. On a créé un certain nombre de choses sur quelque chose qui finalement n'existait pas. Et cette gouvernance partagée, elle existe là à tous les niveaux, que ce soit au niveau des cliniques, des établissements, pour porter nos projets médicaux locaux, au niveau territorial, pour organiser des filières de soins au niveau territorial par rapport à l'organisation et la prise en charge des patients. Et maintenant, le CMO au niveau national, pour pouvoir avoir une vision plus globale des choses. Donc effectivement, on ne fait pas de médecine sans médecins, mais on ne dirige pas des établissements privés sans les médecins.
Il est arrivé que des médecins opposent un veto ?
Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé, puisque on est là présent, on accompagne, et que ce soit les managers ou Daniel Caille, on a la même philosophie sur le développement. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été utilisé et qui, je l'espère, ne le sera jamais.
Donc, en même temps, il y a jamais eu de veto, mais enfin, il y a eu. Moi, j'assistais à quelques échanges toniques, dynamiques, mais utiles,
francs et constructifs.
Exactement, sur beaucoup de sujets.
Absolument.
Il n'y a rien. De toute façon, aucune décision n'est évidente, n'est simple en soi. Et c'est important d'avoir le regard, surtout de nos médecins administrateurs, qui représentent finalement l'actionnariat médical, et d'avoir leur avis sur des dossiers d'acquisition, notamment, ou sur des choix d'investissement. Et donc, il y a eu quelques séances animées, mais à la fin des fins, tout le monde en ressort grandi, tout le monde en ressort satisfait, parce que c'est le lieu de l'échange.
Nicolas Bioulou, donc ce comité médical des opérations, donc il va finalement servir aussi à la croissance externe peut-être du groupe.
Ou... Alors en effet, il y a de nombreuses missions que porte ce CMO, mais sur la croissance externe, c'est-à-dire d'aller auprès des établissements qui souhaitent rejoindre le groupe, parce que ça peut aussi faire peur de rentrer dans un groupe pour une clinique indépendante, et donc c'est aussi de porter justement cette troisième voie auprès du corps médical, auprès de la direction d'un établissement qui va rejoindre le groupe, parce que c'est vraiment l'une des valeurs fortes, ce modèle qui est vraiment différenciant, et donc il faut vraiment que chacun se l'approprie, et puis également d'expliquer justement le rôle de chacune des instances qui sont spécifiques à Vivalto Santé, et puis des différentes thématiques, parce que les achats se font avec le corps médical, et comme ça sur énormément de domaines sur lequel on vient décliner cette co-gouvernance direction et médecin.
Et puis ce CMO peut gérer aussi parfois des crises.
Exactement, voilà, on peut être amené, comme tout à chacun, voilà, avoir des crises.
Et c'est non, là, on parlera justement d'avoir avec Emmanuel.
Une vision, oui. Et d'avoir justement une vision extérieure que peuvent avoir aussi les praticiens du CMO, une vision qui est large au niveau du groupe, de pouvoir partager aussi des expériences, de pouvoir mettre en relation aussi des équipes médicales, toujours voilà, pour trouver la meilleure voie pour sortir d'une situation difficile ou une situation de crise.
Donc François Bruno, donc le bot, donc finalement c'est CMS, CMO, c'est complémentaire, indissociable.
C'est absolument complémentaire. Ce sont deux choses différentes. Le CMS sur des organisations métiers et le CMO sur une organisation opérationnelle, managériale. Et l'un ne va pas sans l'autre puisque l'un est nécessaire pour la mise en œuvre de l'autre. Donc,
très bien, merci beaucoup Nicolas Bulou, merci beaucoup François-Bruno Lebot. On va à présent accueillir Emmanuel de Geuser, reste avec nous, et on va accueillir Nicolas Carré qui est directeur transformation et coordination à l'international.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Nicolas Carrier, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes directeur de la transformation et de la coordination à l'international.
C'est ça.
C'est vrai que Vivalto, donc, c'est un acteur majeur donc, de l'hospitalisation privée en Europe.
Oui, tout à fait. Comme le disait Emmanuel en introduction, on est présent dans 6 pays aujourd'hui. Alors c'est une histoire toute récente. En 2022, on a fait nos premières acquisitions à l'international en Suisse, avec le groupe CIC. Ensuite avec le groupe Ribera Salud en Espagne et le groupe Luciadas au Portugal. Et on est également implanté en Europe de l'Est, en Tchéquie, en Slovaquie. Donc 6 pays, 4,5 millions de patients, plus de 6 000 médecins, 21 000 collaborateurs. On est un groupe important, en effet.
Alors, est-ce que c'est possible de mutualiser vos innovations, vos pratiques médicales dans des pays différents ?
Alors, mutualiser, c'est compliqué, et mutualiser, c'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est l'inspiration. Si je dois te donner un mot aujourd'hui, c'est s'inspirer de ce qui se fait de mieux chez nos confrères, par exemple, de la péninsule ibérique, sur l'innovation. Les Espagnols travaillent beaucoup, par exemple, sur l'innovation digitale. On signe un partenariat l'année dernière avec Microsoft. Et donc, on va s'inspirer de ce qui est fait, par exemple, chez les Espagnols ou chez les Portugais, où ils ont développé la prise de rendez-vous assistée par intelligence artificielle, par exemple. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la fertilisation croisée qui nous anime au quotidien, plus que la mutualisation.
D'accord. Pourtant, les systèmes de soins sont différents.
Ah oui, les systèmes de soins sont tout à fait différents. Par contre, on a une spécificité en commun, c'est qu'on soigne des patients et on les soigne avec des médecins. Donc au final, on fait le même métier et le système de santé, même s'il est différent, on a besoin d'accompagner le patient de manière digitale, d'accompagner nos chirurgiens, nos collaborateurs de la même manière.
Emmanuel Geuser, donc les médecins même étrangers peuvent être actionnaires de Vivalto Santé ?
Ben, on va essayer de les conduire dans la même aventure. Ouais. Donc cette année, on travaille actuellement avec notre équipe portugaise et suisse. Alors pourquoi ces deux destinations ? Parce que c'est un modèle de médecine libérale qui ressemble beaucoup au modèle français. Et donc on pense que là, il y a véritablement un intérêt à les embarquer. Mais on ne va pas laisser sur le bord du chemin nos amis espagnols. Mais ça viendra dans un deuxième temps. Mais oui, c'est l'idée.
Ouais, Nicolas Carré, quand je parlais de mutualisation, est-ce que le fait d'être grand, hein, d'être un peu partout, est-ce que ça permet de faire des, à la limite des achats groupés, économies
ça, c'est une bonne...
dont a besoin l'hospitalisation privée
hein. Oui, tout à fait, obligé d'en faire. Voilà, on est dans un système un petit peu complexe où les marges de manœuvre financières et économiques sont quand même très fines. Les achats, typiquement, c'est un sujet sur lequel on travaille ensemble, en commun. On a monté une équipe achat aujourd'hui et on se prépare à négocier avec des fournisseurs qui, eux, sont des fournisseurs européens, mondiaux. Donc, on a en face de nous des mastodontes. Et donc, le fait d'être un groupe qui représente plus d'une centaine d'établissements aujourd'hui, forcément, ça apporte de la force.
Donc, ça marche.
Ça marche. On est en train de le faire et on espère que ça va marcher. Ouais.
On parle aussi beaucoup de cybersécurité, donc c'est possible aussi de, quand on est aussi gros et quand on est international d'essayer de lutter contre ce fléau.
Alors oui, et ça a été une de nos priorités, c'est-à-dire que qui dit innovation, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de gestion de la donnée, dit problématique de cybersécurité. Ça a été un des premiers sujets que Emmanuel de Geuser a lancé en fin 2022, c'est d'auditer justement avec un organisme extérieur nos forces et nos faiblesses en matière de cybersécurité. Alors on a une bonne nouvelle, c'est que dans chacun des pays on a un niveau de maturité qui est élevé. Par contre, il faut faire preuve d'humilité sur ce sujet et aujourd'hui on travaille avec des équipes au niveau européen justement pour prendre les inspirations de ce qui se fait de mieux dans chacun des pays et pour avoir une politique de lutte contre la cybercriminalité commune.
Alors Emmanuel, donc quand on est gros, quand on est dans le bon sens du terme, c'est le médecin qui parle pourtant.
Je veux
dire, est-ce quand on est plus fort, c'est mieux d'être plus fort pour investir ? Ça permet de faire plus d'investissements ? ou pas ? D'être plus crédible déjà ?
Bah déjà, on est plus nombreux pour réfléchir sur où est-ce que c'est intelligent d'investir. Donc je crois que c'est important. C'est très important d'avoir cette ouverture sur l'international et de voir d'autres modèles, d'autres expériences. On voit que le modèle français en ce moment est en difficulté. Et donc, c'est très inspirant de voir comment les Espagnols résolvent le problème, comment les Portugais prennent en main le sujet, les Suisses, etc. Et je pense qu'on gagnerait tous, d'ailleurs, à prendre un peu plus de temps et aller voir ce qui se passe ailleurs. Et juste, j'en profite pour dire un petit mot, parce que je profite que Nicolas est là, pour dire qu'il a, dans son titre, coordination à l'international, et pas intégration, ce qui est aussi dans notre culture. On n'est pas un groupe qui intègre au sens premier du terme, de manière à diluer les identités culturelles locales. Ce qu'on fait en France depuis 15 ans, on le fait aussi à l'international. Et l'idée, c'est véritablement, comme l'a très bien dit Nicolas, d'aller faire une fertilisation croisée entre les initiatives.
Très rapidement, en une phrase, peut-être aussi croissance vers d'autres pays européens.
Oui, pourquoi pas. Alors déjà, consolidation de nos positions, c'est-à-dire croissance au sein des pays où nous sommes présents, mais bien évidemment, en fonction des opportunités, croissance dans d'autres pays, oui.
Alors Emmanuel de Gozer, donc c'est vrai que j'ai souvent invité des représentants de l'hospitalisation privée, et dont je loue le dynamisme, mais comment faites-vous pour créer, pour innover, pour investir dans un contexte aussi compliqué, avec de telles pressions et de telles restrictions?
C'est une bonne question, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le contexte est compliqué. Oui. Pour la première fois de notre histoire, Vivalto Santé va sortir un résultat négatif en France en 2023.
Peut-être qu'il faut sortir du cliché privé ne veut pas dire obligatoirement lucratif, quoi.
Ouais.
Hélas.
Franchement, je crois que c'est de la provocation de parler de lucratif dans notre secteur, puisque aujourd'hui, vous avez une clinique sur deux qui est en perte. Et que globalement, on le voit bien, 90% de la rémunération d'un hôpital privé, et je ne parle pas que du Vivalto Santé, est fixée par la Sécurité sociale et par l'État, par l'administration, et qu'après, on gère au mieux nos dépenses, mais on est d'abord et avant tout un modèle de volume, de production. C'est pour ça qu'on est allé nous chercher au moment de la crise Covid. C'est pour ça qu'en 2023, le secteur privé a été un acteur qui a pu compenser et limiter une grande partie de ce qu'on appelle le passif social Covid, c'est-à-dire tous ces patients qui n'ont pas été traités pendant de nombreuses années, et donc on a eu une croissance de 5, 6, 7 points selon les hôpitaux qui ont permis justement de réduire cette dette de santé publique. Et donc je suis un peu en alerte quand je vois que on redistribue à l'hôpital public une enveloppe de 470 millions d'euros qui correspond à la sous-exécution du secteur hospitalier, parce que fondamentalement ça envoie un message que plus vous travaillez, moins vous êtes rémunéré. Donc c'est quand même un peu paradoxal.
Deux poids, deux mesures.
Oui, deux poids, deux mesures. Oui. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en 2023, on ne nous a pas compensé l'inflation. Donc les tarifs, qui une fois de plus sont fixés en dehors de nous-mêmes, on n'a aucun pouvoir de faire jouer ces tarifs, n'intègrent pas d'inflation. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des mesures salariales dites Guérini et Borne qui ont été apportées à l'hôpital public et qui n'ont pas été de façon, je dirais, légitime, éthique, normale, alignée pour l'hôpital privé. Donc, il y a un environnement qui est bizarre où on nous dit en même temps, il faut aller chercher des économies,
En fait, on vous dit démerdez-vous, etc. On vous dit démerdez-vous avec l'inflation, avec l'augmentation des prix, avec...
Oui, la limite du démerdez-vous, c'est qu'à un moment, le modèle n'est plus soutenable. Et que moi, je vais avoir des vraies difficultés avec mes actionnaires à leur dire, écoutez, on ne verse pas de dividendes parce qu'on réinvestit tout pour le bien de nos territoires, pour le bien de nos patients. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 patients sur 5 en France qui sont à moins de 30 minutes d'une clinique ou hôpital privé. Donc, on fait partie de la permanence des soins, on fait partie du maillage territorial de santé. Et aujourd'hui, on entend même là récemment les CHU qui disent mais il faut désynchroniser la rémunération à l'acte entre le privé et le public. Est-ce que ça veut dire que les médecins, les infirmières et les patients sont différents selon qui s'adressent?
Est-ce que ça peut bouger?
J'espère que ça va bouger. J'espère que ça va bouger, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du bon sens et qui commencent à se poser des questions et par rapport à pas mal d'inepties qu'on entend dans notre secteur, qui vont commencer à réfléchir. Il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes, il suffit de s'intéresser à quelques députés, etc., qui s'intéressent réellement au secteur et qui étudient à fond le sujet pour se rendre compte que les choses ne sont pas aussi manichéennes et binaires que ce qu'on veut bien nous présenter parfois.
On peut finir sur une note sympathique, celle de votre action.
J'essaie d'être sympathique.
Celle de votre action auprès des jeunes lycéens.
Ça s'est super bien passé, oui, effectivement. On s'était vu début décembre par rapport à cette action. Il y a de plus en plus une attractivité de notre monde, et tant mieux pour nous tous, parce qu'on a vraiment besoin. Et j'ai envie de dire, depuis quelques mois, on sent même que les jeunes reviennent vers le métier de soignant, et on ne peut que s'en féliciter.
D'accord, donc en fait, votre philosophie, c'est pas les uns contre les autres, mais construire tous ensemble.
C'est tellement basique, bien sûr.
Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Nicolas Carrier. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.